Chapitre 65. Dans le vacarme de la bataille, seuls les Xaxs n'émettaient pas le moindre son. Chacun de leurs pas en valant 10 d'un homme normal, ils écrabouillaient les soldats de pierre sous leurs bottes aux semelles renforcées de fer. Décrivant de grands arcs, leurs lames décapitaient à présent des adversaires par dizaines. D'un simple coup de poing, ils renversaient comme des quilles les défenseurs qui s'efforçaient de leur barrer la route. Aussitôt 1000 hommes éliminés, ils passaient aux 1000 suivants. Implacable duo, ils se complétaient à merveille et tenaient sans effort apparent la dragée haute à l'élite des troupes d'Outros. Perchés sur un destrier à la peau aussi minérale que la sienne, Enoch leva son épée et beugla.
« Rassemblement ! Soldats du général Outros, regroupez-vous ! C'est le nombre qui fera notre force !»
Des messages relayèrent cet appel. Bientôt, comme une immense créature dotée d'une conscience unique, la horde de Kourgan reforma les rangs et les resserra. Les Xaxs continuèrent d'avancer, impitoyables marées lancées à toute vitesse sur un brise-lames. Des centaines de guerriers périrent, mais l'entité reformée ne se débanda pas. Enoch aurait parié sa chemise là-dessus. Ces hommes, il les avait connus pendant des décennies et entraînés chaque jour où le soleil voulait bien se lever. Égarés dans le temps, sans famille ni proches, ils se raccrochaient à ce qui leur restait, leur foi en Outros. Il avait promis de les guider jusqu'à la victoire et c'était un homme d'honneur. Des sonneries de cornes retentirent et des harangues leur firent écho.
« Pour le général, coûte que coûte !»
cria Enoch. Des milliers de gorges reprirent son mantra.
« Pour le général !»
Boucliers bord à bord, deux compagnies formèrent une phalange puis pointèrent leurs lances. Véritables murs d'acier, elles avancèrent vers les géants. Leur sort fut vite réglé. Un massacre. Mais leur exemple inspira d'autres compagnies, puis des bataillons et des régiments entiers. Malgré tout ce qu'il avait vu dans sa carrière, Enoch était horrifié par les pertes. En une demi-heure, le général Outros avait perdu plus d'hommes que lors de toutes ses campagnes, mais l'armée ne reculerait pas et elle ne se rendrait jamais. Considérant leur efficacité, les géants d'Ildakar n'étaient pas davantage susceptibles de renoncer. Qu'il s'agisse d'êtres intelligents ou de brutes sans cervelle animés par la magie, ces guerriers s'acharneraient jusqu'à ce qu'il ne reste plus un homme debout en face d'eux. La seule possibilité, c'était de les détruire, quel qu'en soit le prix. Le général partageait cette analyse. D'autres sonneries rallièrent les soldats qui accoururent de toutes les directions, resserrant les mailles du filet. Deux puissantes phalanges percutèrent de plein fouet les géants. Comme on chasse un moustique, ils dispersèrent la pointe de la formation et continuèrent d'avancer. À cet instant, le piège se referma sur eux. Piétinant les morts et les blessés, des hommes vinrent recomposer les phalanges. Encerclés, les géants continuèrent à semer la mort, mais le combat avait insensiblement changé d'âme. Toujours en selle, Enoch cria des ordres. Dans le vacarme, personne ne les entendit. Rien de bien grave, puisque les soldats savaient parfaitement ce qu'ils avaient à faire.
« Pour le général !»
lancèrent-ils d'une seule voix.
« Outros ! Outros ! Outros !»
Les monstrueux guerriers continuaient leur œuvre dévastatrice, mais les réserves du général étaient quasiment inépuisables, et chaque homme dans cette multitude consentait à donner sa vie pour infliger ne serait-ce qu'une égratignure aux deux titans. Alors qu'il avait transmis les ordres, Enoch lui-même en était stupéfait. On eût cru voir une colonie de fourmis s'attaquant à deux énormes insectes. Par vagues, des combattants se jetaient sur les géants. Alors que les cadavres s'entassaient, le piège se resserrait, limitant la liberté de mouvement des deux guerriers sanguinaires. Incessantes, les vagues se succédèrent. Un déferlement. Sur le chemin de ronde, les spectateurs firent grise mine en voyant les Xaxs peiner face à la horde ennemie. D'instinct, Nathan passa un bras autour des épaules d'Elsa et l'attira vers lui. Suivant d'un œil la trajectoire du dragon gris au-dessus d'Ildakar, le vieux sorcier, de l'autre, ne manqua pas une miette de la manœuvre d'encerclement puis d'étouffement conduite par les soldats de pierre.
« Esprit bien-aimé, on dirait des sauterelles. Plutôt un essaim de guêpes ?»
souffla Elsa.
« Des centaines se sacrifient pour que quelques-unes puissent piquer. »
Là-haut, près de la tour du pouvoir, Nietzsche défiait le dragon gris qui crachait déjà du feu. Soudain, Nathan reconnut Brom, le gardien du cimetière de Kouroth. Superbe dans sa robe noire, Nietzsche avait grimpé sur les ruines de la pyramide. Dans la plaine, les Xixaks continuaient à moissonner des vies, mais le nombre les ralentissait de plus en plus, et ils encaissaient trop de coups. Très bientôt, le vent tournerait. Selon André, chaque Xixax pouvait tuer 5000 ennemis. Une estimation pessimiste. Ces deux-là avaient fait au moins deux fois plus de victimes. Hélas, ça ne suffirait pas. Les soldats d'Outros les frappaient, s'accrochaient à leurs jambes, tentaient de les déséquilibrer. Enfin, l'inévitable se produisit. Comme un chêne qu'on abat, le premier Xixax s'écroula et le second ne fut pas long à connaître le même sort. Alors, tels des fourmis, des soldats se jetèrent sur eux par milliers et les taillèrent en pièces, par petits morceaux, certes, mais ça ne changerait rien au résultat final. Le cœur serré, Nathan murmura. « Pardonnez-moi, mes amis. Au moins, vous serez en paix désormais. » Des larmes aux yeux, le vieux sorcier serra encore plus fort sa compagne contre lui. « Dormez pour l'éternité, les gars. Vous avez fait bien mieux qu'on pouvait l'espérer. »
Outros était fier de ses hommes. Comme ça s'imposait, ils s'étaient sacrifiés sans compter pour la gloire de l'empereur Kourgan et par amour pour leur chef. Chargé de la manœuvre, le premier commandant Enoch avait fait montre d'un incontestable talent. Soulagé, Outros se concentra sur Ildakar, d'où auraient déjà dû monter des colonnes de fumée. En volant, Brome avait craché du feu et quelques bâtiments brûlaient, mais ils étaient trop rares. La cité entière aurait dû être en proie aux flammes. Près du général, Ava et Rouva chancelèrent comme si des couteaux invisibles venaient de les frapper. Alors qu'elles portaient une main à leur cœur, Outros sentit son lien avec le dragon se briser net. Quelques instants après la victoire sur les géants, l'ombre de Brome passa sur le champ de bataille. Que fichait-il là, ce maudit dragon? Les poings serrés, Outros avait du mal à en croire ses yeux.
Il s'est libéré! Comment est-ce possible? Magicienne, reprenez-le en main! C'est une pièce essentielle de mon plan!
Ava et Rouva s'efforcèrent en vain d'obéir.
Général chéri, dit Ava, la cicatrice suffisait à peine pour créer un lien. Brome n'étant pas le dragon qui t'a blessé, l'affaire était risquée depuis le début. Quelqu'un a brisé le lien, dit Rouva.
Les jumelles se regardèrent puis s'écrièrent ensemble.
Nietzsche, ça ne peut être qu'elle!
Dans le ciel, Brome plongeait déjà vers l'armée d'Outros. Ses grandes ailes battant l'air, il se mit en position d'attaque, le cou bien tendu, puis lâcha un enfer de flammes et d'acide sur les soldats de pierre. Malgré leur composante minérale, des centaines de guerriers se consumèrent en un clin d'œil. Plusieurs compagnies, et ce en quelques secondes. Alors qu'il se dirigeait déjà vers son quartier général pour activer la lentille et informer Kourgan d'une grande victoire, le général se retourna agacé par ce contretemps. Désormais, Brome s'en prenait au vainqueur des titans. Dans un torrent de feu et d'acier, il tuait des soldats par centaines, une façon de démontrer sa force et de punir Outros et les jumelles de ce qu'ils avaient osé lui faire. Redressant son vol, il s'emplit les poumons d'air, puis piqua de nouveau et lança un autre assaut. Selon toute probabilité, il cherchait à tuer Outros, mais sans le lien, il n'avait presque aucune chance de le repérer. Pour se défouler, il carbonisait des tentes, des cabanes et de pauvres soldats. Le général se campa devant la lentille géante fabriquée avec le sang d'enfants innocents.
« Il ne doit pas l'endommager. Ava, Rouva, protégez votre création !»
Contre toute attente, Brome avait localisé Outros. Décidément, ce reptile sortait de l'ordinaire. Et il fondait sur lui. Quand il s'estima à bonne distance, il lâcha un court jet de flamme sur sa cible. Affolés, Ava et Rouva se prirent la main et érigèrent un bouclier défensif autour de la lentille, du général et d'elle-même. Les flammes balayèrent la zone sans y pénétrer. Malgré sa peau de pierre, Outros sentit la chaleur qui s'en dégageait. Le bouclier des jumelles dévia la lance de feu qui alla percuter et embraser le quartier général. Une perte regrettable, certes, mais l'essentiel était préservé. Outros, les magiciennes et la lentille. Brome fit plusieurs passages, histoire que son message soit clair. Il était furieux et tenait à ce que ça se sache. Sous l'onde de choc et malgré le bouclier, Outros bascula en arrière. Alors que l'odeur de la chair brûlée montait à ses narines, il suivit des yeux le dragon gris. Après un ultime rugissement, Brome prit la direction du nord, vers sa lointaine vallée de Kourotte.